Bonjour à tous, et bien ça y est, nous sommes très heureux de vous retrouver ici en Bretagne depuis la ville de Rennes. Et comme dans chaque édition, eh bien, je suis accompagné par mon fidèle complice, Sylvain Lévy-Valency, bonjour.
Bonjour Olivier, comment ça va ?
Très bien.
Voilà.
Alors, le programme.
Alors, au programme, nous avons, pour une fois n'est pas coutume, un directeur de recherche qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Romain Pasquier, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de recherche au CNRS et titulaire de la chaire Territoire et mutation de l'action publique à Sciences Po Rennes, spécialiste du logement social, de l'habitat social nécessaire dans notre pays. Nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau Julia Lagadec. Ma chère Julia, vous êtes directrice générale. Espacile, merci d'être avec nous. Nous avons nos deux séquences. Tout à l'heure, on interviewera Maître Anne-Sophie Louis, qui sera avec nous sur le plateau. Nous recevrons un grand monsieur de l'immobilier qui est le patron de la région pour Next City, c'est Stéphane Lavrioux.
C'est un magnifique programme et comme le veut la tradition, eh bien, pour nous plonger au cœur de la ville de Rennes et de la métropole, eh bien, nous vous proposons un film réalisé par Alexandre Burkhardt et présenté par le producteur de l'émission, c'est Grégoire Daricot. Le film, c'est maintenant.
Bonjour à tous, bienvenue à Rennes pour ce nouvel épisode des Clés de la Ville. Rennes, c'est une ville jeune, dynamique, portée par son attractivité étudiante, universitaire, par son centre historique et puis par ses transformations urbaines. C'est parti pour la visite.
Rennes, une métropole en mouvement portée par une croissance maîtrisée et une identité affirmée. Capitale bretonne dynamique, la ville s'impose depuis plusieurs années comme l'un des territoires les plus attractifs de l'Ouest français. Son développement repose sur un équilibre subtil, accompagner la croissance sans renoncer à la qualité de vie.
Les maisons à colombage, les rues commerçantes et puis les places particulièrement animées témoignent d'un patrimoine préservé au cœur d'une ville en pleine transformation. Et nous sommes ici devant le Parlement de Bretagne qui est un des symboles forts de la ville de Rennes, ce bâtiment historique qui représente le pouvoir culturel et le pouvoir politique de cette ville. Isabelle Camira, bonjour, merci beaucoup de nous recevoir. Discutons mobilité et transformation des territoires. Les mobilités, elles jouent aujourd'hui un rôle clé dans le développement des territoires. En quoi des infrastructures comme le train peuvent transformer en profondeur une ville comme Rennes ?
Effectivement, Rennes, c'est une ville carrefour depuis très longtemps, au carrefour de l'île et de la Vilaine, donc ça remonte. Aujourd'hui, c'est une ville au carrefour d'un réseau ferroviaire à 5 branches, donc ça veut dire que ça permet d'aller très vite un peu partout en Bretagne. C'est aussi une ville carrefour du fameux réseau routier breton, ça permet d'accéder facilement à plein de territoires. Et puis après, quand on dézoome, parce que là, je vous parle un peu du cas de Rennes-Centre, en fait, Rennes, c'est aussi une ville qui a été pensée en ville-archipel. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas une espèce de grosse conurbation qui s'étale, et on ne sort jamais de la ville. C'est une succession de petits archipels de villages ou de communes qui ont leur identité, leur vie propre, et qui sont connectés entre elles par des réseaux de transport. Ce choix urbain-là, il n'est pas neutre, parce qu'en termes de mobilité, ça veut dire que c'est moins dense et plus éclaté. Mais en même temps, en qualité de vie et en sentiment d'appartenance à des collectifs territoriaux, c'est important.
Ici, l'urbanisme se pense à long terme. Extension du réseau de métro, modernisation de la gare, développement des mobilités douces, Rennes structure son territoire autour de connexions toujours plus fluides au service des habitants comme des actifs.
Et en fait, effectivement, les mobilités jouent un rôle important dans les territoires, mais il ne faut pas confondre la poule et l'œuf. Souvent, en fait, les mobilités, c'est celles qui traduisent les liens, les relations, les dynamiques territoriales. Et donc, c'est pour ça qu'il y a souvent une corrélation entre dynamique territoriale et mobilité.
Cette attractivité s'appuie aussi sur un tissu économique solide, numérique, recherche, enseignement supérieur. La métropole rennaise attire entreprises et talents, renforçant la pression sur le logement. Car Rennes n'échappe pas à une réalité partagée par de nombreuses villes en France, une demande croissante, une offre sous tension et la nécessité de produire un habitat à la fois accessible et durable. Les nouveaux quartiers traduisent cette ambition. À Beaune-Chardonnay, Via Silva ou encore à côté de la gare, logements, bureaux, commerces et espaces publics cohabitent dans une logique de mixité et de proximité.
Nous sommes ici à quelques minutes à pied du centre-ville de Rennes, dans le quartier de la gare qui illustre à merveille le renouvellement urbain de la ville de Rennes, un secteur en pleine transformation autour des mobilités et des nouveaux usages.
À Rennes, les usages évoluent et la ville s'adapte. Télétravail, mobilité hybride, nouveaux rythmes de vie, autant de transformations qui redéfinissent les attentes en matière d'habitat et de développement.
En fait, on voit que le système actuel arrive un peu à bout de souffle. La crise géopolitique actuelle nous montre qu'on est quand même très dépendant des énergies fossiles et que si toute notre économie repose là-dessus, c'est quand même fragile. Du coup, je pense qu'il faut se projeter dans un univers où il faut réinventer les mobilités. Donc moi, je vois plutôt quelque chose qui irait vers une ville où les espaces dédiés à des mobilités plus calmes augmentent, où les choses ralentissent un peu et où du coup il y aurait aussi une meilleure prise en considération des besoins de tous. On va quand même pour l'instant vers une population qui est un peu vieillissante. On sait que par exemple Rennes et Ville Amis des Aînés, ils ont réfléchi à tous les combien il faut mettre un banc pour qu'une personne âgée puisse faire de la distance, parce qu'une personne plus âgée a besoin de se poser plus souvent. Donc voilà, moi j'imagine quelque chose de plus apaisé. Et d'ailleurs, alors on dit que Rennes est un peu en avance sur les mobilités. En fait, quand on habite Rennes, on s'en rend pas compte, mais quand on va dans une autre ville, on se dit « Ah oui, quand même, chez nous, c'est calme, il y a de la place. » Donc voilà, moi je me projette sur une mobilité plus tranquille, ralentie et plus ouverte à tous, en fait.
Rennes avance avec constance, une métropole qui ne cherche pas à aller plus vite que sa croissance, mais à la rendre durable, cohérente et partagée.
Et voilà, bravo. On peut applaudir. Voilà. Ce qui donne un peu le ton et ce qui donne l'esprit, voilà, avec ce film, donc, réalisé par Alexandre Burkhardt, ici, il y a quelques jours, et Grégoire Daricot. On se retrouve ici, on est toujours dans le lieu magique de cette Chambre des notaires de l'Ouest pour cette émission Les Clés de la Ville, toujours accompagné de Sylvain Lévy-Valency. Et nos deux grands témoins, aujourd'hui, on rappelle, Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS, titulaire de la chaire Territoire et Mutation de l'Action Publique à Sciences Po Rennes, et aussi politologue, on le verra dans quelques instants, et Julia Lagadec, directrice générale d'Espacil. Alors, avant de rentrer peut-être plus dans le détail sur le volet sociologique à Rennes, et aussi bien sûr évoquer la politique des logements et tout ce qui nous interpelle en ce moment, on profite quand même de l'actualité et de s'arrêter quelques instants sur les élections municipales à Rennes, dans lesquelles 34 communes en Bretagne ont changé de couleur politique, notamment deux symboliques qui sont Saint-Brieuc et Brest. Il y a 1208 communes en Bretagne. Il y a toujours un équilibre fragile entre des réalités locales et des positions nationales, avec la volonté d'envoyer un message. Il arrive des fois que des réalités locales rejoignent des préoccupations nationales fortes. On l'a vu sur le cas de la sécurité, on l'a vu sur la délinquance, le narcotrafic. Et plus les communes sont grandes, on a l'impression, plus la part des enjeux nationaux est importante. Ma question, Romain Pasquier, elle est double. D'abord, en tant que directeur de recherche et politologue, quels principaux enseignements vous tirez de ces élections municipales en Bretagne? Et puis, dans le prolongement de ma question, est-ce que l'élection des maires n'est peut-être pas terminée, puisqu'on va rentrer dans la phase de l'échelle intercommunale où des décisions politiques majeures vont se jouer autour de l'économie, de la transition écologique, des aménagements, des mobilités et bien sûr du logement? Déjà, est-ce qu'on en a aussi conscience? Mais tout d'abord, peut-être sur le volet des élections municipales en Bretagne.
Sur le vote breton, on pourrait dire que il y a un trait majeur qui émerge, c'est la modération du vote.
C'est-à-dire que les Bretons, comme souvent, presque comme d'habitude, ont voté pour des candidats plutôt au centre, que ce soit le centre-gauche ou le centre-droit. Mais c'est vrai que le socialisme municipal, qui a fortement marqué ces dernières décennies la Bretagne, est en recul. Et donc on voit que le vote modéré, centriste, qui était allé vers le Parti socialiste, vers les partis macronistes il y a quelques années, est en train de glisser de nouveau vers le centre-droit, qui dominait la vie politique bretonne dans les années 50 ou 60. Donc, retour vers le futur. Pour quelle raison ? À mon avis, c'est sans doute deux choses. Des formes d'usure du pouvoir, quand même. On l'a vu à Brest, par exemple.
Oui, c'était le cinquième mandat.
Voilà, des divisions, parfois aussi, à gauche. On l'a vu à Lorient, aussi, qui était quand même un fief socialiste et qui, depuis deux mandats, maintenant, le deuxième va commencer, où Fabrice Loher va diriger Lorient. Et puis, j'y ajouterais quand même la question, vous l'avez dit, de la sécurité. C'est-à-dire que sans doute, on l'a vu aussi à Brest, où François Cuillande, qui a transformé de manière fondamentale sa ville sur les mobilités, sur les infrastructures, n'a pas voulu voir les enjeux de sécurité, n'a pas voulu créer de police municipale, par exemple. Donc, je pense, mais c'est mon avis, une forme un peu de naïveté sur ces nouveaux enjeux qui font que sur les questions de...
Mais il n'est pas le seul à avoir fait, justement... Ce constat
tout
malheureux,
à fait.
Puisque contre sa population, mais je peux prendre le cas de Nantes, etc., où Johanna Roland a très tardé à équiper notamment, pour certains, des caméras de vidéosurveillance, mais également où la population a beaucoup poussé pour une police municipale dont certains maires socialistes ne voulaient pas. Ils l'ont affiché. D'ailleurs, c'était dans leur programme à l'origine.
Mais juste un mot sur l'intercommunal, sur l'intercommunalité.
Sur l'intercommunalité, j'aimerais que vous précisiez également, que vous nous précisiez que l'intercommunalité, c'est une réalité de pouvoir également local.
Hein.
Parce qu'il ne faut pas non plus attribuer au maire 100% absolument de la capacité de décision, puisque aujourd'hui, dans les infrastructures entre les EPCI, les intercommunalités, les communautés d'agglos et également la ruralité, puisque faut pas l'oublier au passage, de rappeler que ce sont des leviers de décision.
Pour parler très concrètement, je dirais que le maire, qu'est-ce qui lui reste en matière d'urbanisme, c'est le permis de construire.
Voilà. Ouais.
Pour tout le reste, c'est l'intercommunalité.
C'est l'intercommunalité, oui.
Donc ça veut dire les métropoles, les communautés de
communes. Et si je vous pose la question au politologue que vous êtes, le vrai pouvoir, il réside où ? Très franchement. Est-ce qu'il ne résiderait pas dans les communautés d'agglos ?
Pour moi, c'est clair. Le pouvoir est dans les métropoles, dans les communautés d'agglos, dans les communautés de communes, clairement. Donc dans les intercommunalités. Parce que les enjeux transversaux autour du logement et de l'habitat, les mobilités, la construction de logements, la gestion du foncier, le fameux ZAN. Tout ça se gère, notamment en Bretagne, à l'échelle intercommunale, à l'échelle des fameux SCOT, des schémas de cohérence territoriale.
Oui, on adore ça en France, d'ailleurs. C'est vraiment une question extraordinaire. Alors, justement, je vais emboîter le pas sur Olivier en disant que voilà, la chose, on voit bien que l'intercommunalité, c'est le pouvoir. Mais il n'est pas rare de voir à la tête des agglos des maires qui ont des couleurs politiques différentles, de maires qui sont même maires de grandes métropoles et qui n'ont pas pu prendre l'agglo, bien évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas, dans la réflexion un peu presque républicaine de l'approche territoriale, aussi une réflexion qui est en train de germer ? Beaucoup pensent, vous savez, il y a bien un rapport, et je pense que, voilà, je crois que vous avez compris, à Sciences Po, vous en avez beaucoup parlé, sur l'idée, finalement, qu'on va peut-être, et c'était l'idée d'ailleurs de Emmanuel Macron, de dire on va supprimer des milliers de communes dans le but d'avoir ce qu'on appelle les super-villes, à l'instar de certains pays, de grands pays d'Amérique latine par exemple. Est-ce qu'en France, si on en arrivait là, on ne dénaturerait pas l'équilibre territorial de notre pays, en sachant que la France a cette particularité du maire, qui est l'héritage un peu napoléonien, et auquel les Français sont très attachés?
Oui, les Français sont très attachés à leur maire. Hein. Lorsqu'on voit le baromètre sur la confiance politique, par exemple, c'est le dernier élu qui a une confiance majoritaire dans l'opinion publique. Donc, c'est une figure républicaine. C'est un peu le petit président de nos communautés, finalement. Et donc, je pense qu'il faut faire attention dans les réformes territoriales que l'on pourrait mener. Sans doute qu'il faut des échelons renforcés, plus de légitimité là où on met beaucoup d'investissements et beaucoup d'argent.
Oui.
Alors, que des présidents de métropole ne soient pas élus au suffrage universel direct, C'est une question quand même qu'on peut poser quand on voit les bordereaux financiers qui passent dans le silence des conseils. On peut quand même se poser des questions. En revanche, il faut toujours garder l'articulation avec les communes, parce que le maire, c'est celui que l'on reconnaît.
La fusion de toutes les communes pour avoir des super communes, c'est pas pour demain.
Mais c'était les années 60. Voilà, c'est comme les grands équipements.
Mais il y a une tentation. C'est une tentation.
Mais il faut quand même savoir qu'on a quand même autant de communes que les États-Unis.
Oui.
Ouais, c'est absolument. Voilà. Mais pour vous, ce modèle, en tout cas, il est terminé.
On n'a pas le même nombre d'habitants. Alors, justement, Rennes est un peu victime de son succès. Elle attire de nouveaux profils, des étudiants, gros bassin étudiant, beaucoup de jeunes actifs qui signent des contrats à durée indéterminée, mais ils étaient quand même 17% à renoncer au contrat parce qu'ils n'avaient pas trouvé de logement et donc ils n'ont pas accepté les offres. Et on est sur des chiffres entre 17 et 22% des étudiants qui ne trouvent pas de logement. Ça va être une grosse galère en 2026, ça l'était déjà, et la situation, elle se dégrade. Moi, j'ai envie de vous poser une question. À l'essayiste que vous êtes, comment cette attractivité va transformer durablement la sociologie de la ville, parce qu'effectivement, préserver les équilibres naturels, et d'ailleurs, nous étions venus interviewer Nathalie Appéré au CMB, au Crédit Mutuel de Bretagne, il y a 5 ans maintenant, et est-ce qu'on observe déjà, est-ce que, de votre point de vue, des ruptures ou des recompositions nécessaires? Justement, parce qu'on voit bien que ces villes comme Rennes, comme Nantes, comme Lyon, on peut prendre également Toulon, Nice ou Marseille, on a l'impression qu'on arrive à un niveau soit de saturation, qui en fait, on a même eu avec Olivier des maires ou même certains élus nous dire on serait plutôt dans un schéma de prôner de décroissance, voire même de décroissance démographique. Quelle est votre opinion sur ça?
On a clairement un modèle en surchauffe. C'est-à-dire Rennes est en surchauffe, comme Nantes est en surchauffe. Pourquoi ? Il y a effectivement cette question du... Sûrement surchauffe démographique. Hein, Rennes Métropole accueille à peu près 5000 nouveaux habitants chaque année.
C'est énorme, par an.
Par an. Donc c'est énorme, il faut les absorber. Et donc ça pose aussi la question d'à quelle échelle. On parlait dans le film de Ville-Archipel. Vous voyez, c'est des pôles urbains avec en même temps des espaces verts. Donc il y a une tension entre la nécessité de densifier et les exigences de cadre de vie, la question des îlots de chaleur, la question de la rénovation thermique, etc. Donc, et puis il y a la question aussi des échanges de la ville avec son hinterland, parce que Rennes a quand même été construit intra-rocade. C'est-à-dire que tout, vous voyez, toute l'immobilité, le métro, etc., les parkings relais sont à l'intérieur de la rocade.
C'est Paris à l'intérieur du périphérique, c'est le périphérique parisien qui crée une limite invisible.
Voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas intérêt à aller au-delà de la rocade? Est-ce qu'il n'y a pas intérêt à élargir?
Mais là, vous parlez d'extension de la ville.
Voilà, alors ça pose des questions institutionnelles, ça pose des questions, est-ce qu'il ne faut pas faut penser la métropole ou est-ce qu'il faut penser l'aire urbaine aujourd'hui qui est encore bien plus large que la métropole. Ça pose de nouveaux équilibres parce que évidemment les communes qui sont au-delà de la rocade, elles ont du foncier, mais elles n'ont pas envie forcément d'avoir les problèmes de la ville. C'est de nouveaux échanges, aussi, de nouvelles réciprocités entre Rennes et son hinterland, entre la métropole et son hinterland un peu plus lointain.
Et alors justement, pour poursuivre là-dessus, je vous ai entendu, vous êtes intervenu récemment au Braise Lab, et vous avez parlé de ce mot qu'on entend régulièrement quand on va de ville en ville aussi, c'est le mot décentralisation. Et vous dites en fait, ce mot ne me plaît pas, je parlerai plutôt d'évolution, d'autonomie des territoires, qui a un véritable défi à l'échelle régionale, une répartition aussi des responsabilités politiques. Il peut y avoir des sujets aussi... avec de la participation de citoyens, la santé, l'éducation, l'emploi, la culture, les mobilités, le champ, il est très très large. Quel lien, Romain Pesquet, vous faites entre les citoyens, les institutions et les services publics? Quelle gouvernance mettre en place? Quelle est pour vous, justement, la bonne échelle?
Vous avez 3 heures, c'est ça? La bonne échelle, il n'y en a pas. À mon avis. C'est-à-dire qu'il y a cette obsession française de la bonne échelle, l'échelle optimale, qui s'appliquerait partout.
On essaie de tendre vers le mieux,
On tend vers le mieux, mais le mieux à Rennes, ce ne sera pas le mieux à Nantes et ce ne sera pas le mieux à Paris.
Donc c'est des réalités locales.
Ce sont des réalités locales.
Mais décidé par qui?
Romain Pesquet, le général de Gaulle, en 1964, parle déjà du plan de décentralisation. Il soumettra ça au vote des régions. et ça sera la cause de son départ en 69.
Tout à fait. Hein,
où les Français ont dit non à son projet. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment l'idée de la décentralisation a été un objet politique extrêmement prégnant jusque dans les années 80. Et ensuite, on a vu finalement, même si François Mitterrand a fait les premiers attaques de décentralisation, une jacobinisation du pouvoir qui n'a cessé de se renforcer. Et le sens de la question d'Olivier, c'est peut-être que le politologue nous répondra que peut-être il faudrait modifier la Constitution ou simplement peut-être basculer sur peut-être une sixième République ou autre. Mais on a réellement l'intention qu'il y a une impossibilité structurelle dans la définition des pouvoirs avec les spécificités territoriales dont vous parlez. Et vous avez raison. Quelle est l'analyse géopolitique que vous pouvez faire sur justement la fabrique de la ville, puisqu'on voit bien que là on parle de la fabrique de la ville, c'est l'objet de notre émission, a des incidences absolument majeures sur la cohésion et des territoires et de la société française.
Mais ce que je pense, c'est que l'aménagement du territoire à la française, pensé du haut vers le bas, ne se fera plus. Et que la transition écologique, d'une certaine manière, peu importe ce qu'on y met, mais elle va être très territorialisée. Parce que les îlots de chaleur à Rennes, ce ne seront pas les îlots de chaleur à Montpellier. Voyez. Donc il faut être en capacité d'avoir des capacités de réponse locale amplifiées.
Et elles ne reculent pas à Rennes, justement.
Elles reculent à Rennes comme ailleurs, parce qu'on est dans une logique, vous l'avez rappelé en introduction, par exemple de recentralisation financière, par exemple d'hyper-inflation des normes, qui corsette aussi.
Et un État qui vous donne des leçons de gestion, c'est quand même un sacré paradoxe, un État qui est chroniquement déficitaire donne des leçons de gestion, parce qu'il faut même rappeler que dans la réglementation et dans la loi qui régit les communes ont une obligation d'être à l'équilibre budgétaire. Oui, je ne parle pas des investissements, hein. Oui. Je parle uniquement d'équilibre budgétaire. Il y a quand même une incohérence quelque part. Et les Français sont en train de le pointer.
Oui, je pense. D'ailleurs, il y a eu un sondage IFOP il y a quelques mois où ils disaient qu'ils étaient ils étaient favorables majoritairement au fédéralisme, par exemple.
Oui.
Donc, il y a bien effectivement une transformation du logiciel français. Il faut des cadrages, bien sûr. Hein, il faut des objectifs. Il faut une pensée du vivre ensemble qui soit partagée, qui soit plus participative. Mais me semble-t-il, il faut des capacités d'action locale beaucoup plus fortes en termes financiers, en termes de champ de compétences. Alors, le problème, c'est qu'on trouve une autre réalité, c'est le millefeuille.
Le millefeuille administratif, normative et réglementaire.
Voilà.
Alors justement, je voudrais faire une petite transition avec vous, Julia Lagadec. Vous êtes une filiale d'Action Logement. D'ailleurs, félicitations, puisque le président d'Action Logement Immobilier vient d'être élu à la tête de la Fédération Française du Bâtiment. C'est Frédéric Carré, qui est un grand monsieur de l'immobilier, et il prendra ses fonctions en juin prochain. Donc on est ravis que vous ayez Action Logement, vous connaissez Romain Pasquier, est un outil essentiel dans les équilibres, justement, à plusieurs niveaux d'ailleurs. Et c'est très intéressant dans cette configuration. Vous, en tant que filiale, vous jouez un rôle qui est structurant dans ces équilibres territoriaux, puisque vous êtes représenté et par des syndicats patronaux et par des syndicats salariés. Vous vivez en parité, vous vivez en coopération permanente. Comment vous définissez aujourd'hui, le rôle du bailleur que vous êtes, avec ses spécificités, spécificités territoriales, mais surtout une politique face au logement social qui est quand même, vis-à-vis de l'État, assez mal définie. Je parlais tout à l'heure de la réduction du loyer de solidarité, a largement amputé vos capacités d'investissement dans les dernières années. Julia Lagadec.
Alors oui, effectivement. Alors déjà, je vais permettre une petite incise et féliciter effectivement le président d'Action Logement Immobilier pour son élection à tête de la FFB. Vous le soulignez, Action Logement est un acteur paritaire et un acteur dont la raison d'être est le logement des salariés et donc le logement pour des équipes qui vont venir alimenter le développement, l'attractivité des territoires, finalement. Vous soulignez tout à l'heure un chiffre important, 17% de jeunes actifs, d'étudiants en tout cas, qui renoncent formations, soit à des jobs parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Ça, c'est la raison d'être d'Action Logement, que de trouver des solutions.
Pas de logement aussi.
Ils ne trouvent pas de logement, oui. Ouais. Ils ne trouvent pas de logement,
Rennes,
ils renoncent.
Rennes, c'est critique, je veux dire.
Alors, Rennes, c'est une des collectivités en France qui a la plus forte proportion de population étudiante et qui donc a des tensions très très fortes sur son parc immobilier à destination des jeunes. Pour essayer de répondre à la question, le rôle de bailleur, c'est avant tout de produire. C'est avant tout de produire sur les territoires. Et en tant que filiale d'Action Logement, nous, notre rôle, c'est de développer de l'offre locative, mais aussi en accession. On y reviendra, parce que aujourd'hui, un bailleur comme Espacil, et c'est le cas de beaucoup de bailleurs d'Action Logement, produisent à la fois du locatif social, du locatif intermédiaire et de l'accession sociale. On a à produire et on chevauche finalement nos zones de développement, elles chevauchent les zones d'attractivité des territoires et en particulier les zones où il y a des besoins d'emploi. Et en Bretagne, on a des taux d'emploi qui sont parmi les plus élevés de France, avec par ailleurs, on additionne, sous votre contrôle, on additionne une forte attractivité économique avec des bassins d'emploi très répartis et Rennes fait pas exception. Par ailleurs, une attractivité qui tient à notre trait de côte, qui là ne s'envisage pas d'un point de vue climatique, mais plutôt d'un point de vue confort et agréabilité de la vie au bord de mer.
Le paradis de la pêche.
Voilà.
Alors, vous êtes acteur engagé au service des territoires, hein, de l'innovation sociale, l'accès au logement. Et puis, il y a une particularité. Quand on parle de mixité sociale, d'équité de traitement, il y a la porte du logement social qui est symbolique, c'est des loyers uniques à Rennes, chez les bailleurs sociaux. Ça concerne donc les entrants ou les personnes qui sont en mutation pour les logements HLM. Le principe, c'est que le loyer, il est plus fixé en fonction du plan de financement initial du logement, en fonction d'une seule règle, c'est cette typologie. Donc on parle de T2, on parle de T3, T4. Il n'y a donc plus de corrélation avec l'âge du patrimoine, sa localisation, les aspects financiers. Seul compte en fait les règles de priorité, traitement de la demande et le niveau de loyer unique qui est fixé en fonction de l'APL. Ça existe depuis quand? Et je crois que c'est au stade de l'expérimentation. Est-ce que vous avez déjà des retours?
Alors c'est une expérimentation qui a été initiée donc à la demande de la métropole rennaise en 2017 dans le cadre de la loi Égalité Citoyenneté. Expérimentation reconduite en 2023 pour 5 ans. Les ambitions de la métropole, c'était effectivement rompre avec une forme de géographie finalement des loyers qu'on pourrait résumer de manière assez binaire, patrimoine ancien agrégeant un certain nombre de difficultés, loyers bas, patrimoine plus récent avec une certaine attractivité des loyers plus élevés. Ce qui fait que finalement le demandeur, en fonction de sa situation, il n'avait pas guère de choix. Donc ça, c'était vraiment le je pense que la philosophie générale qui a sous-tendu le choix de mettre en place du loyer. Alors effectivement, aujourd'hui, le loyer unique concerne l'intégralité des bailleurs sur le collectif. Il y a 7 niveaux de loyer. Il y a des majorations en fonction de la qualification thermique des immeubles. On a 2 niveaux de zonage et on parle plus effectivement de T1, T2, T3, T4. On parle de L1 jusqu'à L7. Ouais. Aujourd'hui, en tout cas pour Espacit, c'est 45% du parc éligible qui est passé sous loyer unique de manière systématique pour le logement neuf. À la rotation, dès qu'on a des mutations, des nouveaux entrants, on
combien
passe en loyer.
Vous gérez combien de logements?
Donc j'ai un peu plus de 28 000 logements, mais pas que sur l'aire rennaise, hein, puisque oui, nous on est partout en Bretagne, mais aussi un peu sur les territoires ligériens et en Île-de-France. Donc on fait partie des bailleurs importants du secteur. Et on, pour vous donner un ordre d'idée, hein, on produit en moyenne 1500 logements en locatif intermédiaire et en accession par an. Et ça, c'est à peu près notre rythme pour les prochaines années.
Alors, vous avez parlé du rapport emploi-logement. D'ailleurs, il faut rappeler que dans votre modèle économique, vous êtes alimenté par la participation à l'effort de construction, la fameuse PEC pour les entreprises de plus de 50 salariés. Une transition, Romain Pasquier, on parle d'emploi, on parle de dynamique territoriale et on voit bien que Rennes ne connaît pas la crise en termes de taux de chômage qui est l'un des plus faibles, sinon le plus faible de France. Un bassin de vie dans lequel il est extrêmement agréable de vivre, il faut effectivement le préserver. D'ailleurs, Nathalie Appéré, dans son programme, on a fait également une ligne directrice. D'ailleurs, elle nous avait largement impressionné, rappelle-toi Olivier, puisque c'est très agréable d'avoir des maires très compétents, ultra compétents sur la question du logement. On peut ne pas être d'accord avec sa politique. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Nathalie Appéré maîtrise parfaitement,
et il y a une vision,
parfaitement ces dossiers, et elle a une vision. Moi, la question que j'aimerais poser à l'essayiste que vous êtes également, c'est comment on imagine l'évolution des métiers, à l'instar du fait que Rennes est un bassin étudiant d'innovation technologique à tout point de vue, qui aujourd'hui commence à avoir une réputation hors les murs, un peu partout en France et à l'étranger également, notamment face aux collectivités locales qui doivent finalement être symétriques avec ces évolutions, et notamment l'incursion incroyable de l'intelligence artificielle dans ces bassins, qui est en train, mine de rien, d'être une véritable troisième peut-être révolution industrielle, peut-être qu'on pourrait la qualifier comme telle. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on a réellement l'impression que, sans aller dans une vision schumpeterienne de destruction créatrice, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Est-ce que c'est une réalité, ou est-ce que c'est plutôt un effet de mode, comme ça a été le cas pour la bulle Internet, etc.
Je pense pas qu'on soit sur un effet de mode. Hein. L'intelligence artificielle, oui, on peut avoir une vision un peu schumpeterienne, effectivement, d'une innovation fondamentale.
Parce que l'idée, en fait, mais ça vous le savez, c'est que les collectivités locales aujourd'hui s'interrogent dans leur modèle économique pour finalement toutes les tâches chronophages, etc., de monter ou d'entraîner ce qu'on appelle ça des intelligences artificielles, mais qui du coup provoquerait un séisme au niveau des ressources humaines et des emplois. Et ça n'a pas l'air d'être extrêmement simple sur ce type.
Non, mais de toute façon, dans les collectivités territoriales, vous avez beaucoup de fonctionnaires. Donc la destruction de l'emploi, si vous voulez, elle va dépendre quand même du statut.
Hein.
Oui. Donc pour les tâches répétitives, etc., chronophages, effectivement, on risque d'avoir des évolutions dans l'avenir. On n'aura plus de recrutement sur ces phases-là. Mais aussi, on a toute une réflexion, à mon avis, dans les collectivités, sur l'optimisation de certaines politiques publiques. Vous voyez, distribution de l'eau. Gaspillage des déchets.
Ça va améliorer l'expérience.
Je pense que si c'est bien, alors typiquement des robots conversationnels pour les usagers. Mais encore faut-il aussi lutter contre l'électronisme, par exemple. Ah, oui, voyez. Oui. Donc il y a beaucoup d'enjeux. C'est un outil, à mon avis, d'optimisation des politiques publiques. Ça, à n'en pas douter, vous voyez, sur le gaspillage alimentaire, la collecte des déchets, la distribution de l'eau. Je pense qu'à l'avenir, il y aura des choses assez intéressantes en termes d'évaluation des politiques publiques.
Mais qui peut être destructeur d'emplois aussi. On le voit, des enquêtes notamment disent que l'architecture, tous ces métiers autour de l'architecture, de l'ingénierie et tout ça seraient les premiers impactés. Effectivement, pour poursuivre et continuer sur l'aspect logement et l'accession à la propriété, il y a un modèle, et on l'a vu avec Sylvain, qui se développe de plus en plus, qui est incroyable. On était à Tours il y a 3 semaines. C'est le BRS, le bail réel solidaire. C'est un outil qui répond aux besoins d'accession. On rappelle le principe, permettre en fait à des ménages aux revenus modestes d'accéder à la propriété. On peut devenir propriétaire d'un logement à des prix au départ de 30 à 50% moins cher que ceux des prix du marché. Il y a une contrepartie, hein, c'est que le dispositif dissocie le foncier du bâti. On est propriétaire des murs, mais on n'est pas propriétaire du terrain qui reste la propriété d'un organisme foncier solidaire à qui il faut verser une redevance. Et en cas de revente, le prix du logement, il est encadré pour éviter la spéculation. Comment ce modèle est implanté, comment il se développe à Rennes et la métropole, le BRS?
C'est vrai que ça marche très fort dans les territoires. Hein.
Oui,
c'est très clair.
Je vous confirme que, en tout cas, c'est très développé au sein de Rennes métropole, puisque Rennes métropole fait figure de pionnière, hein, finalement, sur ce sujet, avec un OFS métropolitain auquel, effectivement, l'ensemble des acteurs de l'accession sociale accompagnés font partie. Le PLH de Rennes Métropole, c'est 1700 logements produits par an, normalement, en BRS.
Programme local habiteur, pour l'habitat.
Oui, pardon, tout à fait. Peut-être une particularité, c'est l'introduction de 4 niveaux de BRS sur le territoire métropolitain.
Ouais.
Et ça, c'était une innovation rennaise. Ça l'est toujours, je crois. Ça reste... en tout cas, ça a toujours pour ambition de mieux maîtriser des prix de construction, hein, pas de prix de construction, des prix d'acquisition, parce que un des enjeux sur Rennes, on le disait tout à l'heure, c'est un territoire extrêmement attractif et donc qui a assisté à une envolée de ses prix et avec des populations qui jusque-là arrivaient à accéder à la propriété, qui aujourd'hui ne peuvent plus en dehors du BRS. L'autre particularité aussi que nous avons, et pour le coup, Espaci l'Habitat est un acteur test pour la métropole, c'est le BRS dans l'ancien, c'est-à-dire la vente sociale sous régime BRS. Et à ce titre, on a conduit avec la métropole une expérimentation sur un immeuble à Rennes, en BRS locatif, et ça fonctionne, et ça a vocation, en tout cas, à se multiplier.
Et ça relocalise, finalement, si on peut dire les choses comme ça, des classes qui se sont finalement éloignées des centres urbains, parce qu'elles n'avaient plus les moyens d'accéder à la propriété, et donc elles ont augmenté considérablement, en termes de mobilité, l'accès à l'emploi. Parce que le vrai sujet, c'est que, pour celui qui ne peut pas se loger, c'est double peine. Non seulement il n'a pas accès à l'emploi, mais en plus il ne peut pas se loger. Pour pouvoir se loger, il va faire une heure et demie de route. Alors et surtout qu'on n'est pas à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, on a entre 2 et 3 heures de transport en commun chaque jour. Et que et ici, alors vous avez une chance inouïe, c'est qu'en une heure, on peut aller carrément... je caricature un peu, mais peut-être à l'autre bout de la Bretagne. Mais ce que je veux dire, c'est que la décorrélation des prix au mètre carré dans Rennes par rapport aux revenus, elle est juste incroyable. Il y a une rupture, hein, Romain Pasquier, je pense que vous confirmez cette idée, entre le revenu moyen par habitant et les prix des loyers. Est-ce que c'est encore une fois le prix de l'attractivité de Rennes ?
Aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on constate, nous, c'est que les personnes qui se portent acquéreurs de programmes en BRS, sur les BRS qui sont commercialisés par les bailleurs sociaux, hein, parce que les promoteurs cèdent aussi du patrimoine en BRS, c'est une des innovations rennaises. Aujourd'hui, ce sont des candidats qui, de toute façon, n'auraient pas pu accéder à la propriété dans le neuf, ni même dans l'ancien, sans la mise en place des dispositifs BRS. Dans l'ancien, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, on commercialise des biens à entre 1900 et 2000 euros du mètre carré, quand on est sur des prix marché plutôt aux alentours de 3000.
Ah oui, quand même. Voilà.
Donc l'écart, il est substantiel et il permet de solvabiliser des acquéreurs qui, sans quoi, seraient restés locataires. Et ça produit des effets aussi, parce que l'ambition, c'est une meilleure maîtrise des prix de l'immobilier, enfin, des prix d'immobilier. Mais derrière, il y a tout un phénomène de tension sur la rotation dans le locatif, en particulier dans le locatif social, puisque ces dernières années, on a assisté à une très forte baisse de la location. Or, on a un peu plus de 41 000 demandeurs logements sociaux sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine. On était à moins de 8 000 attributions l'année dernière. Donc, ça dit la nécessité quand même d'avoir de la rotation. Aujourd'hui, sur certains territoires, et en particulier Rennes, ça repart là. On avait des signes un peu positifs. On avait aujourd'hui des attributions qui s'exerçaient principalement du fait des volumes de livraison.
Donc on voit bien la relation finalement entre les deux. Je rappelle juste qu'en France, c'est 2,7 millions de demandes
en
attente de logements sociaux, avec des durées qui peuvent aller de 5 à 10 ans. C'est quand même pas neutre.
Alors juste peut-être pour poursuivre et pour terminer, je pense tous les deux, vous pouvez bien sûr y répondre, pour produire à la fois des logements qui soient socialement inclusifs, écologiquement abordable, économiquement aussi, on puisse avoir de l'accessibilité. Est-ce que ça passe par la maîtrise foncière pour produire des logements abordables ? Où en est-on à Rennes ? Parce que c'est un sujet clé, en fait.
C'est le gros débat, hein, là.
Tous les deux, votre avis.
La fiscalité du foncier, l'accès au foncier.
Comment on peut le maîtriser, ouais.
Est-ce qu'il faut le réglementer ? Est-ce qu'il ne faudra pas passer peut-être par une réglementation à l'instar, peut-être, de l'encadrement des loyers qui a été testé, même si ça fait hurler les professionnels de l'immobilier. Voilà, votre avis sur cette question qui est cruciale. Hein.
Si on regarde un peu de manière socio-historique, on va dire la capacité de Rennes à produire un modèle de cohésion sociale, ça a été avant tout la maîtrise du foncier. C'est-à-dire que c'est ici qu'ont été inventés, à la fin des années 70, début des années 80, des outils de planification pour gérer le foncier.
hein, les programmes sur le programme local de logement, d'habitat, etc. Ça a été mis en place à la fin des années 70, ici à Rennes. Donc ils avaient bien compris que la maîtrise du foncier, c'était ça qui pouvait produire notamment de la cohésion sociale via l'accessibilité des logements abordables, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas au bout de ce modèle? Est-ce qu'il ne faut pas inventer de nouvelles choses à d'autres échelles, hein? On voit aussi, par exemple, la région, hein, qui met en place des foncières. Voilà. Il y a la question de l'échelle et puis la question des nouveaux outils normatifs, qui, là, ça rejoint la question de la décentralisation. Nouveaux outils normatifs pour mieux réguler ce foncier. C'est mon point de vue.
Bon, et vous alors?
Alors moi, je partage totalement le point de vue. Il y a des fonciers aussi aujourd'hui qu'on sous-estime, qu'on sous-utilise, c'est les fonciers existants, c'est-à-dire les immeubles qui sont déjà existants, qui sont en limite de vie finalement, parce qu'ils ont été construits dans les années 50, 60, une obsolescence.
Qu'est-ce qu'on fait? On les rase, on reconstruit?
Alors, et ben justement, aujourd'hui, par exemple, sur Rennes, alors on parle beaucoup transformation bureau, et on a en logement, ancienne zone industrielle, voilà, on en parle énormément, et sur Rennes Métropole, il y en a, et nous, en tant que bailleurs, Espacier Habitat est partie prenante dans la transformation, mais on a aussi, aujourd'hui, des projets très innovants sur Rennes Métropole, et je pense à un programme qu'on porte à Villejean, qui est en gros la déconstruction partielle, c'est-à-dire on conserve les structures porteuses de 165 logements sur une construction dalle béton, hein, voilà, et on va transformer ces 165 en 211, des logements sociaux qui vont repartir pour 40 ans et qui sont aujourd'hui qui étaient obsolescents d'une part de par la construction, mais aussi des usages, parce qu'aujourd'hui on a quasiment plus besoin de T7. En fait, aujourd'hui on a besoin de T3, T4, T2, parce qu'on a de plus en plus de familles monoparentales.
Mutualiser les espaces et en finir avec le gaspillage des mètres carrés inutilisés.
Oui, et puis les mutualiser, les optimiser aussi, parce que passer de 165 à 211, ben c'est quand même une production
aussi,
supplémentaire, ouais, de logements. Aujourd'hui, justement, vous parliez de l'arsenal législatif. Ben là, par exemple, pour pouvoir réaliser ce programme de Villejean, ben il a fallu qu'on sollicite des dérogations, parce que aujourd'hui, ce type de reconstruction, ça n'existe pas.
Bien sûr.
Dans le logement social. Néanmoins, l'expérimentation, elle le rend possible. Et puis, je pense que c'est vraiment important, parce que on voit que on l'a à peine abordé, mais c'est pas un sujet propre à la métropole de Rennes. Mais aujourd'hui, en plus de la forte attractivité des territoires, en plus des apports de nouvelles populations, on assiste à quoi? À une recomposition familiale des ménages. Et aujourd'hui, on a coutume de dire, nous, pour une famille avant, on a deux logements maintenant.
Oui.
Voilà. Et on le voit d'ailleurs dans nos opérations.
Qui a provoqué,
voilà. Et on le voit dans nos opérations de relogement. Oui. C'est-à-dire, on pense reloger 165 ménages et on en reloge plutôt 185.
Oui.
Donc ça dit quelque chose.
Eh bien écoutez, merci à tous les deux, on peut les applaudir. Julia Lagabec et Romain Pasquier, merci infiniment, merci beaucoup pour vos éclairages, vous restez avec nous et on va passer à la rubrique suivante, on va parler d'immobilier ancien, toujours ici, en direct depuis la Chambre des notaires de l'Ouest.
Les clés de la ville, parlons bien avec le Conseil supérieur du notariat.
De retour ici à la Chambre des notaires de l'Ouest pour poursuivre l'émission, cette belle émission, Les Clés de la Ville à Rennes. Eh bien, on vous propose maintenant un coup de projecteur sur le marché de l'immobilier ancien à Rennes et par extension sa métropole, avec une invitée, c'est Maître Anne-Sophie Louis. Bonjour. Vous êtes notaire, vous êtes porte-parole de la Chambre des notaires de l'Ouest. Et avec vous, justement, on va dresser un tour d'horizon sur l'actualité du marché rennais, mais également parler des locations, de l'évolution des prix et des transactions. Après une période quand même durant laquelle les transactions ont reculé, ça on l'a vu partout dans de nombreuses villes de France, l'activité était quasiment à l'arrêt quand les taux d'intérêt sont passés de 1 à 4% en l'espace quasiment d'une année et demie. Depuis, les taux ont eu tendance à rebaisser, ça a redonné un peu de confiance, il y a une stabilisation, on est autour de 3,25% en moyenne aujourd'hui, toutes durées confondues. Les prix de l'immobilier ont retrouvé un peu de raison, ça aussi on l'a vu partout. Comment se porte justement le marché immobilier à Rennes et par extension sa métropole, maître ?
Aujourd'hui, sur l'année 2026, c'est vrai qu'en tout cas, depuis le début d'année, on voit un renouveau, une reprise d'activité, mais qui se traduit notamment grâce, comme vous disiez, aux prix qui se sont stabilisés, qui se sont réajustés sur le secteur, avec des taux d'emprunt aussi qui ont reflué légèrement, puisqu'on est quand même, on était même fin 2024 à plus que 4. On était quand même vraiment,
4,3%,
voilà, on était quand même monté pas loin des 4,5%. Donc là, c'est vrai que les taux avaient rebaissé, et on se rend compte aujourd'hui que les volumes de transactions repartent sur les secteurs où les prix se sont réajustés. Donc là, sur l'année 2025, quand on faisait le bilan, on l'a fait en début janvier sur les conférences de presse trimestrielles, on s'est rendu compte qu'on avait un volume qui avait repris de plus 5,9% sur un an par rapport à 2024. Après, il faut toujours tempérer. Oui, c'est une reprise, mais on avait quand même du moins 22 entre 2023 et 2024. Donc on partait quand même de très très loin. Malgré tout, les signaux aujourd'hui sont au vert. Je pense que tout le monde constate, tous les professionnels de l'immobilier constatent cette reprise avec la baisse des prix qui a quand même été très salutaire puisqu'on avait des prix qui s'étaient quand même vraiment envolés post-Covid.
Les vendeurs ont consenti à revoir les valeurs. Parce que le vrai sujet, c'était de convaincre des personnes de vendre un prix alors qu'eux-mêmes précédemment avaient acheté à un prix élevé. Et donc effectivement, ces ajustements de valeur n'ont pas été évidents.
Alors effectivement, il a fallu convaincre, entre guillemets, ou en tout cas informer les vendeurs que le prix qu'ils estimaient n'était pas forcément le prix du marché actuel, puisque pour tout acquéreur, l'enveloppe d'achat n'est pas extensible. Donc dans leur enveloppe d'acquisition, effectivement, il y a les taux d'emprunt, il y a le prix d'acquisition. Après, aujourd'hui, la durée de détention moyenne, en tout cas sur le territoire, nous, de la métropole et de l'Ille-et-Vilaine, on est sur un peu plus de 11 ans. Or, on se rend compte, c'est 11 ans et 5 mois.
C'est plus élevé que la moyenne.
Exactement.
Absolument. Qui était de 7 à 9 ans.
Exactement. Nous, sur l'Ille-et-Vilaine, on est à 11 ans et 5 mois pour la durée de détention moyenne.
Donc, ceux qui ont consenti des ajustements de valeur l'ont pas fait à leur détriment, forcément.
Exactement. C'est là où je voulais en venir. C'est qu'on se rend compte qu'il y a eu une telle évolution des prix sur 5 ans, sur 10 ans, que ce soit appartements anciens, maisons anciennes. On avait, du plus 30, pas loin même des fois, du plus 40%. Donc oui, les prix ont baissé. Mais pour autant, les vendeurs aujourd'hui, même en corrigeant leur prix pour le faire ressembler au marché actuel, ne perdent pas d'argent.
Oui, c'est ça. Alors, pour prendre un petit peu de recul, effectivement, sur donc 5% de vente, en plus sur un an, c'est 6000 appartements, c'est 8300 maisons, déjà pour avoir en tête un petit peu justement cette progression. Et sur les prix médians à Rennes, 3650 € en moyenne par mètre carré. Donc c'est plus 1,6% sur un an, c'est quasiment stable. Mais quand on prend du recul, qu'on regarde dans le rétroviseur, c'est plus 13% sur 5 ans, déjà.
Exactement, et on est même quasiment à plus 40 sur 10 ans. Donc on se rend compte que les 3650 € du mètre carré aujourd'hui pour Rennes, en prix médian.
Quartiers prime, on pourrait arriver à des montants...
Alors nous, on parle de prix médian, ça veut dire qu'en fait, sur un prix médian, vous avez 50% des transactions qui ont eu lieu à un prix supérieur et 50% à un prix inférieur. Le prix médian, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de refléter au mieux la réalité du marché.
Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas Rennes, expliquez un petit peu, justement, si on doit prendre une photo, l'évolution des prix des différents quartiers. Je crois qu'il y a vraiment, là aussi, au niveau des prix, on peut passer du simple au double. Quand on parle de fracture des territoires, déjà, au sein de la ville, alors c'est... encore plus prégnant à Paris, où là c'est une explosion incroyable. Mais à Rennes, il y a aussi de fortes disparités selon les quartiers.
C'est vrai que déjà, la Bretagne, en général, il y a une disparité. On a toutes les villes, tous les départements. On est un vaste territoire qui est homogène, mais quand même avec énormément de disparités. Et on le voit encore plus dans l'Ille-et-Vilaine. L'Ille-et-Vilaine, effectivement, vous avez toute la partie de la côte littorale avec Saint-Malo. Vous avez le centre-ville de Rennes, vous avez les premières couronnes. Vous avez des villes aussi comme Redon, des villes plus rurales. Donc, on a un bassin qui est très vaste et qui est complètement différent selon le secteur. Donc c'est vrai que quand on fait la moyenne de tout ça, on se rend compte qu'on a un prix au mètre carré à 3650 € sur Rennes, mais sur Rennes aussi, on a des quartiers. Oui, vous prenez un quartier centre, vous prenez un quartier Tabor-Sévigné, vous êtes plutôt à 4100 € du mètre carré. Vous prenez en revanche des quartiers comme Le Blône, comme Bréquigny, on redescend plutôt à 2000 € du mètre carré. Donc effectivement, selon le secteur, selon le quartier, le prix n'est pas du tout pareil parce que la demande n'est pas la même.
On l'a vu avec l'attractivité d'ailleurs du territoire, sur les problématiques d'investissement. Nous étions, pas plus tard que cette semaine, avec le ministre Jean Brun sur son dispositif. On a fait un grand jury de la presse immobilière sur Radio Immo. Et on le voit, il nous dit il faut réattirer les investisseurs, les petits bailleurs, puisque le coefficient de détention en France de la propriété immobilière, c'est 1,1. Donc on n'est pas face à des mastodontes, etc. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que on a besoin de ces milliers de petits propriétaires qui ont besoin d'un complément de revenus pour la retraite et qui mettent leurs biens en location. Et on posait la question justement en perspective de cette émission sur votre région, où le ministre dit, ben justement, mon dispositif, le dispositif Jean Brun d'amortissement, ce fameux statut du bailleur privé, eh ben pour une ville comme Rennes, c'est, j'allais pas dire que c'est le bon taux, mais c'est une très belle zone d'investissement. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que même sur des quartiers qui sont des quartiers plus bas en prix, ça reste un investissement rentable si on le met en location, par exemple étudiant ou sur des jeunes actifs?
Oui, et puis il y a eu un classement qui est passé il y a quoi, il y a 2-3 semaines, pour indiquer effectivement que Rennes est en top, dans le top 5 des villes effectivement sur la location et qui a au niveau du rendement. Pardon ?
On a des idées du taux de rendement moyen?
Non, là, moi, je l'aurais pas en tête, d'accord. Mais effectivement, les professionnels du secteur en termes de location de rendement d'accord. pourront vous le dire. Mais c'est vrai que on n'avait plus de Pinel. Donc, effectivement, au niveau des investisseurs,
Il y avait le Pinel breton. Il pourrait y avoir le Jean Brun breton.
Peut-être, on l'a vu. Rennes, comme la Bretagne, est toujours en avance, ou en tout cas précurseur sur des dispositifs. Donc, on a fait le Pinel breton qui a très bien fonctionné. On l'a dit, effectivement, le BRS a été fait à Rennes. Et Rennes est pionnière en matière de BRS. Donc, peut-être qu'on aura un LLI Jean Brun, effectivement, breton à un moment donné. En tout cas, sur la Bretagne, moi, j'ai rentré la semaine dernière mon premier contrat de réservation LLI Jean Brun. Donc, ça fonctionne.
Donc, ça veut dire que l'investissement repart selon vous, les investisseurs, vous les revoyez?
En tout cas, les investisseurs sont là. Voilà. Ils étaient à la recherche d'un nouveau dispositif, il n'y avait plus. Donc aujourd'hui, effectivement, je pense qu'ils vont s'orienter potentiellement vers ce dispositif. Mais l'avantage sur notre métropole, c'est qu'on a effectivement du BRS, on aura ce produit intermédiaire et on a toute une palette de dispositifs qui peut exister pour répondre aux besoins du logement, qui aujourd'hui, la question du logement et d'habiter est quand même effectivement la priorité pour tous.
Alors je regardais justement, vous avez raison, et j'en profite, les biens à la vente à Rennes, je regardais sur le portail Figaro Immobilier, il y en a 2200. Biens à la location à Rennes, toujours sur Figaro Immobilier, 206. Pas possible, je vais regarder sur Se Loger, on va voir, c'est le concurrent. Se Loger, biens à la vente à Rennes, 2700. Bien la location à la Rennes, 740. Il y a vrai, enfin. Et je regarde sur les biens sur Airbnb à Rennes, on est autour de 1800.
Énorme.
Ah bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, de toute façon, la collectivité, mais c'est la volonté, hein, de Rennes Métropole, a été de refermer, entre guillemets, beaucoup plus les portes du Airbnb.
Mais pas d'encadrement de loyer, pas d'obligation de rénovation énergétique, pas avant 2034, ce qui fait que beaucoup aussi ont basculé sur Airbnb. Même si on comprend et personne ne veut interdire Airbnb, ça peut être un complément de revenus et tout ça, mais c'est devenu un véritable business avec des multipropriétaires qui profitent aussi d'un système.
Vous avez beaucoup aussi de copropriétés maintenant qui modifient leur règlement de copropriété pour fermer la porte au Airbnb.
C'est pas évident à faire, mais bon.
Vous avez vu l'arrêt qui a été rendu effectivement sur les copropriétés. Les copropriétaires, à condition qu'ils soient en majorité, bien évidemment, peuvent décider dans leur règlement d'interdire la location.
Et il y en a de plus en plus.
La location sociale.
Les secteurs les plus porteurs, quels sont les bons conseils pour placer son argent, investir à Rennes, que ce soit à Rennes intramuros ou autour en périphérie?
Alors ça dépend de ce qu'on recherche, parce qu'effectivement, comme on le disait, c'est un territoire qui est disparate. Donc selon si on a envie d'être près de la mer, d'être plutôt niveau étudiant,
vous avez carte blanche.
Centre-ville de Rennes. Après, on a une belle mixité dans Rennes aussi sur tout ce qui est première et deuxième couronne. Alors la première couronne, vous avez des villes qui s'en sortent très bien, que ce soit effectivement Cesson-Sévigné que moi je connais ou que Saint-Grégoire, c'est des villes où on n'est pas très loin de son lieu de travail et on a la possibilité d'avoir une maison, etc. Mais la deuxième couronne sort aussi son épingle du jeu. Parce que certes, on est un petit peu plus loin, mais ça nous permet d'avoir des mètres carrés supplémentaires à un prix qui n'est pas forcément plus élevé. Parce qu'aujourd'hui, sur Rennes, c'est compliqué d'avoir une maison. On l'a dit, nos professionnels ici l'ont souligné, Rennes, c'est une ville qui se réinvente sur elle-même. Donc, on construit en vertical plus aujourd'hui qu'en horizontal.
Prix moyen d'une maison ?
430
sur Rennes. 000.
En tout cas, sur les derniers chiffres. À Rennes même, effectivement, ouais.
Et quand on sort de Rennes, donc là, le prix des maisons, à peu près ?
Sur Cesson, vous allez être sur du 460-500. Après, effectivement, si on passe en deuxième couronne, bassin ruraux, on va avoir des maisons qui peuvent être dans les 230-300 000 euros. Et pour autant, on a effectivement une ville qui est parfaitement desservie en termes de transport, que ce soit avec le métro, avec le train, avec aujourd'hui les trains-bus qui vont arriver. Donc, on peut s'éloigner. Pour autant, on a un temps de trajet par rapport à Rennes-Centre qui est pas très long.
Nous qui sommes parisiens, ça vous nous fait rêver, là.
Une heure et demie de Paris.
Ça nous fait rêver.
Et après, encore un petit peu, vous êtes à la mer.
Ah oui, ça.
Dernière question, maître. Quand on souhaite vendre ou acheter un bien immobilier à Rennes, en quoi faut-il être particulièrement attentif aujourd'hui ?
j'ai envie de dire tout parce qu'on est notaire et que nous on fait attention à toutes les petites choses, mais l'emplacement, forcément. L'emplacement, on l'a dit par le passé, c'est toujours vrai. On voit bien que les secteurs attractifs n'ont pas subi autant la baisse des prix que sur certaines autres communes, puisque c'est là où est la demande. Après, on est aussi effectivement attentif à tout ce qui est performance énergétique.
DPE ?
Exactement. Le DPE, aujourd'hui, les acquéreurs le regardent. Ça fait partie des sujets de négociation pour le prix, parce qu'effectivement, se rajoute l'enveloppe travaux qui sera à mettre en place. Et puis, effectivement, après, il y a toute la partie financement, montage. C'est pour ça qu'on organise et on dit à nos clients de s'entourer de tous les professionnels du secteur professionnel de l'immobilier en amont de leur projet. Mais c'est ce qu'ils font très bien. Maintenant, ils viennent nous voir avant même de faire l'offre d'achat pour justement avoir notre avis et avoir une vision d'ensemble sur tous les domaines et les difficultés qu'ils pourraient rencontrer.
Eh bien, merci beaucoup, merci. Maître Anne-Sophie Louis, qu'on peut applaudir. Merci. Merci beaucoup. Et l'on va continuer, bien sûr, toujours dans l'immobilier. Maintenant, aborder la question du neuf, l'immobilier neuf, avec le représentant de Nexity. À tout de suite.
Les clés de la ville, la vie ensemble, avec Nexity.
De retour ici pour la poursuite de l'émission Les clés de la ville à Rennes, depuis la Chambre des notaires de l'Ouest. Et maintenant, nous allons se projeter sur la ville de demain avec l'immobilier neuf et la séquence La vie ensemble, avec le directeur général de la région Ouest, Stéphane Lavrieux pour Nexity. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Et comme le veut la tradition, Sylvain Lévy-Valenti, vous introduisez la séquence.
J'aime la vie ensemble. C'est vrai que vous avez choisi, alors je ne sais pas qui est au marketing chez Nexity, mais alors franchement, chapeau. La vie ensemble, puisque Stéphane Lavrieux, vous résumez dans ce slogan toute l'ADN de Nexity. Alors justement, nous on se connaît bien, parce qu'on se voit régulièrement, on nous avait déjà, avec Olivier, interviewé. Nexity à Rennes, c'est une implantation historique.
Alors effectivement, Rennes, ça fait 30 ans qu'on est à Rennes.
Ah oui, quand même.
Donc on a commencé par un pôle, la partie aménagement, où on a fait des grandes opérations dans la métropole, que ce soit Laillé, Gévesey, Château-Giron, donc on a fait beaucoup d'opérations. Et les premières opérations de promotion, on a commencé en 2006. Et donc, en 2006, oui, c'est ça, la première opération qu'on a livrée, c'était 2006. Donc, on est effectivement à Rennes depuis 30 ans.
Chez Nexity, vous avez aussi dans votre ADN, chevillé au corps, l'accession à prix abordable. Moi, avant d'entrer dans le sujet, Stéphane, est-ce qu'on peut encore aujourd'hui penser à produire du logement à prix abordable? Alors, les bailleurs sociaux le peuvent parce qu'ils ont des mécanismes de financement. Je parle par exemple des financements longs, puisque vous avez des amortissements d'emprunt qui peuvent aller jusqu'à 40 ans, ce qui n'est pas le cas de sociétés de type privé qui ont des encours beaucoup plus courts. Est-ce qu'on est capable encore de le faire? Et si oui, comment on y arrive?
Alors, on est capable. Ça fait partie effectivement de nos objectifs, de trouver au fond les mécanismes de construction, que ce soit en innovation de la construction. On a des plans de performance, coût de construction en permanence. On a effectivement un travail sur le financement effectivement des jeunes, parce qu'au fond, on s'adresse à ces catégories qui ont le plus de difficultés à trouver du logement. Donc c'est de l'innovation technique, c'est de l'innovation financière, avec comme objectif qui est donné par la présidente, c'est de trouver les solutions pour que le loyer, le crédit égale le loyer payé par les habitants.
Et d'ailleurs, vous avez lancé une opération sur ce sujet vis-à-vis de vos clients, des primo-accédants, c'est pour le prix de votre loyer, vous accédez à la propriété. Et vous allez même plus loin, vous avez une offre qui permet de doubler quasiment l'enveloppe de solvabilité, puisque vous avez un partenariat, me semble-t-il, avec le Crédit Lyonnais, qui permet aussi d'optimiser, avec le prêt à taux zéro, un prêt supplémentaire.
On a fait le prêt à taux zéro Nexity, donc on vient abonder, au fond, le prêt, en essayant de doubler le prêt à taux zéro en fonction de la taille du logement pour que, voilà, donc c'est toutes ces mécaniques. Le logement, au fond, abordable pour les primos et fait partie de la stratégie Nexity. Ça fait partie de l'ADN parce qu'au fond, on doit une responsabilité même en tant que que promoteur, aménageur, exploitant, on a une responsabilité sociétale et qu'on doit innover pour venir, je dirais, répondre à ce que les habitants ont besoin, quoi.
Comment se porte le marché du neuf à Rennes? Est-ce que vous subissez, à l'instar des autres territoires, aussi une tension très cruelle sur la construction de logements neufs? Je regardais les mises en chantier. Effectivement, quand on prend les années précédentes, c'est mal.
Alors, bien sûr que le marché est tendu, hein, il est tendu puisque par rapport aux années 2021-2022, il a divisé par deux.
On produisait combien de logements à l'époque?
Je pense que la ville de Rennes, c'était 1000 logements à l'année. Aujourd'hui, c'est 500 logements à l'année.
Ah oui. Moitié. Voilà.
Et c'est la même chose pour la métropole, avec des prix qui malgré tout, ont pas baissé, puisqu'au fond, on est la moyenne de l'ensemble des promoteurs sur Rennes Métropole est aux alentours de 4 800 euros du mètre. Pour la ville de Rennes, on est à 5 500, avec, je dirais, des quartiers à 8 000 et des quartiers à 3 600. Mmh.
Oui, comme disait d'ailleurs Maître Louis très justement, effectivement, on a une variation de prix. Et c'est vrai que vous ne pouvez pas agir sur tous les leviers, puisque le coût de construction, c'est le même, le prix des matériaux, c'est le même, ça peut être sur un territoire où d'ailleurs, parfois, le coût de construction est supérieur au prix du mètre carré du foncier. Mais là, justement, le sujet, si je vous demande pourquoi on en est là sur la crise, est-ce que c'est un problème d'offre? Il n'y a plus assez de clients? Il n'y a plus d'investisseurs? Ou simplement, vous pensez qu'avec les élus locaux, soyons clairs, vous avez plutôt des gens, des élus frileux, qui ne refuse ou qui s'obstine à réfréner les autorisations d'urbanisme et les permis de construire. D'où vient la crise? Ou est-ce qu'elle est multiple, Stéphane Labriot?
Alors, je dirais, on peut pas dire que la ville de Rennes est contre la construction. Je pense qu'effectivement, il y a une volonté de construire. On a effectivement 5 000 nouveaux habitants arrivés par an. Donc, la conscience, effectivement, de vouloir construire. Dans un environnement, au fond, où on a les habitants, la confrontation d'aller construire la ville sur la ville.
Et puis, il y a la notion d'acceptabilité aussi. On peut plus arriver avec un projet ficelé, clé en main, imposer quelque chose dans un quartier. Il y a aussi une gouvernance d'avancer, d'anticiper en amont avec les habitants. Enfin, la logique a changé aussi.
Et puis, la logique a changé. Donc, il y a une mise en place qui a été faite en 2022 d'une charte pour, au fond, consulter, échanger avec les habitants avant de déposer les permis. Malgré tout, l'acceptabilité est quand même difficile, puisque au fond, il faut qu'on monte en hauteur nos constructions. Donc voilà, c'est la maison à côté, donc la suppression des maisons, c'est des freins. Ouais. Donc, mais malgré tout, les élus portent au fond la construction. Donc ça, un peu. Après, la réalité, c'est le financement des acheteurs qui on doit retrouver.
On peut avoir des quartiers d'ailleurs dans Rennes qui sont très élevés en valeur. On peut monter jusqu'à combien au maximum?
8 000 euros du mètre carré.
Ah oui, 8 000 euros du mètre. Ouais, oui, c'est-à-dire. Voilà. Oui. Donc là, on s'adresse plutôt à une clientèle.
Quand on discute avec les Parisiens, ils nous disent mais comment vous faites? Vous êtes bien plus cher qu'à Paris. Donc,
Alors justement, on loue dans le neuf. Il faut louer du neuf parce que c'est une vraie offre. De la résidence gérée, hein, aujourd'hui c'est très à la mode, c'est ce qu'on appelle une classe d'actifs qui se développe de plus en plus, les résidences gérées pour seniors, l'habitat intergénérationnel, d'ailleurs sur lequel vous travaillez, Julien, également avec Action Logement. Si j'investis dans le neuf, Stéphane Labriot, je peux espérer louer au mètre carré combien par mois pour être très prosaïque, en moyenne?
Alors pour la ville de Rennes, on est aux alentours de 20 euros du mètre carré.
Ah quand même. Ah oui. Ouais,
quand même. Okay.
Les prix, oui, quand vous parliez de prix parisien, on n'est pas loin du...
On est pas mal. On est pas mal. Ouais, mais par rapport au prix de vente, on a du mal à trouver quand même une rentabilité. Donc
d'accord.
On a la Jeanbrun qui est arrivée. Donc
ouais, il y a eu déjà des premières ventes, alors?
On a fait les premières ventes, voilà. On a dû en faire une dizaine depuis Jeanbrun. Bon, il y a quand même, effectivement, il y a toute la communication.
Ça marche. Ouais.
Il y a toute la communication, au fond, Il y a l'éducation des vendeurs, il y a la prise en main d'un nouveau dispositif, donc ça c'est notre travail de tous les jours. Et puis pour revenir sur les prix des loyers, on est à 15 euros en périphérie de
la ville. Ça reste quand même des loyers élevés qui ne s'adressent pas forcément à tout le monde, puisque tout le monde n'a pas les moyens d'accéder. Alors justement, je voudrais que, pour bien cadrer votre intervention Stéphane, c'est de parler des modes constructifs. Et après, je demanderai à Julia et à Romain de conclure avec nous sur ces... Les modes constructifs, aujourd'hui, c'est pas anecdotique du tout. Ossature bois, béton de chambre, structure aujourd'hui d'assemblage hors site, réduisance des nuisances sonores, travail sur la logistique, réemploi des matériaux dans la déconstruction, économie circulaire, on a l'impression... que le métier de promoteur que vous avez connu, il est en train de changer, mais radicalement. Alors là, pour le coup, Schumpeter, merci, parce que c'est plus qu'une destruction créatrice, on a remplacé des emplois par des emplois. Est-ce qu'il n'y a pas un... Alors voilà, je m'adresse aux professionnels que vous êtes, il y a très longtemps que vous êtes dans ce métier, vous avez vu à peu près toutes les crises depuis une trentaine d'années. Et quel est votre recul à vous, Stéphane, quand on voit aujourd'hui le pivotement que d'ailleurs vous avez opéré au sein d'Exity, puisque vous avez transformé durablement votre modèle?
Alors, je sais pas comment je dois le prendre, en fait, depuis tout ce que vous avez vu,
machin. Si vous avez 30 ans d'expérience, moi j'en ai 37. Donc, bienvenue au club, hein.
Bon, mais effectivement, je pense que, il y a une remise en cause de la construction. Je pense que ça fait partie de l'ADN. Moi, j'ai commencé, puisque, effectivement, comme on l'a dit, moi j'ai eu l'industrialisation, ça a dû démarrer en 2008 chez Nexity. Donc on a des produits aboutis, la construction bois, on est parfaitement, on maîtrise parfaitement l'outil, hein. On doit en produire aux alentours de 2000 par an chez Nexity. Aujourd'hui, on a l'objectif de réaliser toutes les opérations en béton bas carbone. Voilà, ça fait partie de la trajectoire que l'on s'est donnée. Le béton de chambre, on n'en a pas encore fait dans notre région, mais c'est des opérations qui vont démarrer effectivement dans l'Est. Je pense qu'on doit effectivement être en permanence à l'écoute, dans l'objectif quand même de toujours essayer de baisser les coûts. Voilà, parce que on peut pas renchérir. Aujourd'hui, on est dans l'innovation.
On y arrive nécessairement à faire baisser les coûts, puisque il y a que les innovations des modes constructifs qui vous permettra.
Oui, il y a pas de choix. Je dirais, dans la logique de mode de financement, on a aujourd'hui défini, on a mis en place un accord pour aller faire de la géothermie, donc pour baisser les coûts de l'énergie. Donc, on va faire porter une partie de la technique de la géothermie par un porteur extérieur pour éviter de renchérir la prix de vente tout de suite. Donc, on cherche l'innovation, je dirais, du bâti, mais de l'énergie, enfin plein de choses qui fait que on essaie d'être en avance, mais dans le but, au fond, de solvabiliser nos clients.
Oui, en fait, vous êtes très orienté, justement, le client. Et je voudrais qu'on, pour conclure votre intervention, Stéphane, parler d'une opération iconique. Alors, on va regarder. C'est à Champy. Champy, c'est un quartier, ça? Oui, j'ai fait 65 000. Voilà, prenez ça. C'est cool. Bon, je vais dire à mon monteur de couper ça au montage. Alors, voilà. Donc, à Champy, dans une ville, Nexity développe le saule blanc. Alors, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce que apparemment, c'est une opération hyper iconique. Ça représente vraiment ce que vous révélez comme ADN chez Nexity.
Ouais, c'est une opération qui répond à plein d'enjeux, qui a effectivement techniquement, on est BBCA, biosourcé
bâtiment 2, bas carbone.
Bâtiment bas carbone, ensuite biosourcé niveau 2, donc un mode constructif ossature, béton, façade bois, avec une mixité, je dirais une mixité sociale, avec un bailleur, ensuite du BRS de 1 à 4, un jardin participatif, une partie de la construction, un bâtiment est prévu de le faire en participatif avec les futurs habitants. Enfin voilà, je dirais, on est.
En fait, vous construisez un kibboutz là, c'est pas possible. C'est...
Non, mais pas vraiment, c'est pas dans l'esprit justement. En plus, non, mais, on essaie d'être non, ouvert mais, sur la ville.
Alors, je plaisante, mais pas totalement, parce que je me rends compte que de plus en plus, dans les modes constructifs, on est sur de l'habitat intergénérationnel, des espaces communs, une volonté de faire société. On en parlera dans votre conclusion, si vous voulez bien, Romain, dans justement la vision constructive. Est-ce que vous le sentez, ça? Est-ce que les gens sont partants là-dessus?
En fait, je dirais, on ne construit plus un logement pour un logement, on le construit aussi pour un usage, pour une vie ensemble. C'était,
c'est ça, voilà. Ouais, c'est ça.
On a une opération en commun à Saint-Herblon, où on est venu construire dans le centre-ville.
C'est une ville, ça aussi, c'est une ville. Hein,
c'est une ville aussi, Saint-Herblon. On est venu construire un vrai quartier, ça fait 130 logements, avec une résidence intergée, de l'accession sociale, de l'accession libre, une crèche, au fond, au pied de l'église, quoi. Donc, je suis plutôt fier de ça.
Est-ce qu'on peut encore acheter, justement, à Champy?
On peut encore en acheter. Alors, on a effectivement du BRS1, du BRS2, du libre. Donc, on fait de l'accession.
On voit sur l'onglet donc, de Champy encore. Champy. On a la. Il tombera pas plus bas. On a accès à tout. Le stock, c'est livré ou ça va être livré?
Alors, il y a une partie qui va être livrée à la fin de l'année. Il y a une autre partie qu'on a démarré les travaux là en janvier, donc qui sera livrée l'été 2027.
Voilà, donc venez investir à Champy, qui n'est pas un quartier, je précise. Applaudissements pour Stéphane Labriou. Et le mois prochain, nous serons
Nîmes.
J'allais dire Rennes. On est déjà
à
Nîmes. Je vais y arriver. Très jolie ville. Je te rappelle, on avait fait
magnifique,
très très belle chose au musée de la Romanité.
Absolument.
On avait fait une très belle émission. Je voudrais qu'on fasse une conclusion avec vous, Julien Lagadec et Romain Pasquier. On va commencer par vous, Julien. Tout à l'heure, on a parlé de la RLS, qui était en fait issu de la baisse des APL, hein, de la compensation des APL, puisque c'est pas l'État qui a financé les APL, ce sont les bailleurs sociaux qui ont financé la baisse des APL. Il faut juste rappeler ça dans le public, parce que c'était pas évident. On voit bien que le logement social revient véritablement au cœur du débat public, comme étant un levier et un moyen d'action, avec la préservation, avec la signature de la période quinquennale avec Action Logement, qui a été reconduite, bien évidemment. Quelle conclusion vous portez, si je vous demandais de faire une analyse courte sur, justement, l'avenir de la cohésion paritaire dans les régions nécessaires, puisque Action Logement, il faut le rappeler, vous êtes un outil hyper important, et notamment dans le plan d'action cœur de ville qui a été développé dans le gouvernement, car sans Action Logement, sans la Caisse des dépôts, sans acteurs comme la Banque des territoires également, ça ne pourrait pas fonctionner. Quel est votre... en mode conclusion.
Peut-être un chiffre. Un logement sur 6 aujourd'hui est produit par les filiales du groupe Action Logement. Donc ça, c'est le bilan de 2025. Ça me paraît essentiel de le rappeler. Donc ça dit aussi la force des grands groupes et la force d'Action Logement et la force du paritarisme. Et si on l'applique à notre belle région, qu'est la région Bretagne, ben finalement, notre capacité à tous travailler ensemble, promoteurs, bailleurs, collectivités, en dehors d'ailleurs des clivages politiques, ben ça résume la force et l'agilité du savoir-faire ensemble. Et c'est applicable à Action Logement via le paritarisme, et on voit que ça produit des effets. Donc ça me paraît vraiment essentiel, en tout cas, de le réaffirmer. Alors oui, la RLS, elle est supportée aujourd'hui par les bailleurs, et pour un organisme comme Espacil, moi je résume souvent comme ça, le coût de la RLS chaque année, c'est l'équivalent de 200 logements en fonds propres. Donc, on a eu quand même un pas de réaliser lors de la dernière loi de finances, et ça nous donne de la respiration pour produire.
Une baisse de 600 millions d'euros.
Voilà. Et pour des organismes comme les nôtres, c'est vraiment important de le rappeler. Puis un autre rôle aussi, vous soulignez le fait que le logement social est au cœur, en tout cas était au cœur des campagnes. On a vu aussi un changement de paradigme avec une meilleure prise en compte du logement social. Il faut bien comprendre que le secteur dans son ensemble soutient très durablement et solidement tout le secteur du BTP. Mmh. C'est 350 000 emplois indirects aujourd'hui qui sont soutenus par le mouvement HLM.
Et les promoteurs immobiliers que vous avez achetés.
Y compris les promoteurs, on a des partenariats solides. Et je pense qu'on peut dire aujourd'hui que, en tout cas, un acteur comme Espacil en particulier, a été via l'appel à manifestation d'intérêt du groupe Action Logement, qui était 30 000 logements pour l'emploi, a soutenu l'ensemble de ses partenaires. Promoteur aussi dans la crise, donc ça c'est aussi important, mais on n'est pas là, on y est parvenu aussi parce que on a des partenariats solides aussi quand ça va bien. Enfin, voilà, c'est important et ça me paraît essentiel de le rappeler. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 demandeurs sur le territoire breton. Donc une demande croissante sur des territoires qui jusque-là ne souffraient pas d'un déficit d'offres.
Et donc, vous voyez qu'il y a une dégradation de ce point de vue.
Alors, aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'on doit continuer à produire. Et donc, pour les bailleurs sociaux, pour Action Logement, il faut nous laisser la latitude de le faire.
Merci beaucoup, Julia. Romain Pasquier, c'est bien que vous fassiez cette conclusion, justement. On voit bien que le logement, l'habitat, a pris une dimension extra-financière et revêt des domaines comme l'éducation, la mobilité, il y a presque un déterminisme géographique de là où on habite. Et d'ailleurs, c'est certainement le cas. Moi qui ai grandi dans une cité HLM complètement rasée, c'était aux Minguettes à Vénissieux, donc qui était... Et en plus, j'avais 16 ans pendant les émeutes dans les années 80, vous imaginez. Donc on avait une espèce d'urbanisme un peu criminogène par nature et qui ne fabriquait finalement que de l'échec en masse. Est-ce qu'il n'y a pas politiquement, Romain Pasquier, dans la prise en compte de l'aménagement du territoire, ou d'une volonté presque gaulliste d'un aménagement du territoire pensé pour tous, une réflexion politique à avoir sur ces équilibres de pouvoir que l'on voit aujourd'hui très largement fragilisés.
Non, mais vous avez raison. C'est-à-dire que si on part du modèle rennais, le modèle rennais, pourquoi Rennes a réussi à produire un modèle relativement équilibré en termes de cohésion sociale, c'est parce qu'elle n'a pas non plus misé tout sur le social. Elle a misé aussi sur le développement économique. C'est-à-dire, vous pouvez faire beaucoup de vous pouvez être très généreux dans l'offre de logement, vous pouvez être en capacité de régulation à partir du moment où vous avez des ressources. Si vous avez de moins en moins de ressources, votre capacité à produire des dispositifs d'État-providence, quelque part, local, vont s'amenuiser. Donc la question pour les collectivités territoriales, c'est la question des ressources financières, mais c'est aussi la capacité à innover, la capacité aussi à être en relation avec à la fois le marché, les acteurs privés, des sociétés d'économie mixte, des bailleurs sociaux. Donc il faut être en mesure de réguler un écosystème. S'il y a un déséquilibre dans cet écosystème...
Mais ça passera par quoi, cette régulation ?
Comment ?
Est-ce qu'elle passera par un outil, cette régulation ? Est-ce qu'il faut rétablir, à l'instar des grandes années, dans les années 60 et les débuts des années 70, un grand plan d'aménagement du territoire ou un commissariat au plan véritablement grandeur nature ? Est-ce que ça passera par ça ?
Moi, je crois pas. Ça, c'est le mythe français.
Oui, alors c'est un mythe.
Oui, c'est un mythe. Oui, c'est un
mythe. Donc, si Lionel Stoléru était encore vivant, il vous dirait, mais...
Oui, mais c'est la France a beaucoup changé.
Et oui.
C'est horizontalisé, vous, la participation, la diversité des territoires. Moi, j'y crois pas, mais je peux me tromper.
Donc l'affaire de l'aménagement du territoire, selon Romain Pasquier, c'est quoi ? C'est une affaire territoriale.
C'est une affaire territoriale
qui concerne donc la communauté d'aglo.
Notamment
les outils,
la métropole.
Ou les EPCI.
Fabrique des territoires, c'est les territoires qui vont la porter.
Bien vu.
On peut merci vous applaudir. Beaucoup. Merci absolument. Infiniment. Alors, merci. Merci à tous. Un immense merci à toute l'équipe de la Chambre des notaires de l'Ouest pour son accueil. Une mention spéciale à sa porte-parole, maître Anne-Sophie Louis, pour ses éclairages. L'occasion aussi de saluer la direction de la communication du CSN, Isabelle Mariano, Myriam Barca, François Prost. Next City, bien sûr, avec Stéphane Lavrioux, qui est intervenu à l'instant. Toutes les équipes de
Nef. Emma Durel.
Anne Gint. Absolument.
Merci à elle également.
On remercie Figaro Immobilier, Maya Echavidre, Stéphane Enfonceau, Gurvan Marie, le local de l'étape Rennais, qui est là présent aujourd'hui. On remercie, bien sûr, Radio Immo avec son fondateur, son maître à penser, Sylvain Lévy-Valency.
Merci d'avoir pensé à moi également, à Baptiste Plouchard. Absolument. Qui est à la réalisation, Lorenzo, le magnifique, qui a fait également les prises de vue, et bien sûr toutes les équipes parisiennes.
Et voilà, en tout cas, les clés de la ville, c'était un vrai plaisir ici à Rennes. Rendez-vous dans quelques semaines à Nîmes. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine émission des Clés de la ville.